sur scène, puisque oui, il y a 24 auteurs dans l'anthologie du festival cette année, autour donc de ces sorciers, l'amicale des jeteurs de sorts.
Attends, la
et la première question, c'est tout simplement à l'éditeur, aux éditeurs. Quel était un peu le deal qui vous a été proposé, quel était le cadre?
Alors, je crois que je vais répondre. Le deal qui nous a été proposé par le festival a été de réaliser une anthologie telle qu'on l'aurait faite si ça avait été pour nous. Donc on a eu la liberté pleine et entière, mis à part le fait que comme l'anthologie doit être disposée dans différentes médiathèques, y compris scolaires, il ne faut pas aller trop loin, disons, dans le sexe et le gore. Alors, la plupart des textes qui nous ont été soumis ne posaient aucun problème de ce côté-là. Disons qu'on a éventuellement demandé à certains auteurs d'éponger un petit peu les taches de sang à certains endroits, dans la mesure où ça ne nuisait pas au texte. Voilà, à part ça, eh bien, ça s'est passé dans des conditions tout à fait de liberté éditoriale totale.
Et l'idée d'ancrer quand même ces sorciers, la plupart, il y a une nouvelle de fantasy vraiment, on peut dire ça, et une nouvelle de science-fiction. Le reste, c'est vraiment ancré dans le réel.
Oui, enfin, on n'est pas vraiment quand même des puristes des styles, si toutefois il existe encore. Tant que c'était dans le thème, en fait, on a eu quelques-uns qui étaient hors sujet. Un autre détail qui est assez amusant, c'est qu'on se demandait dès le départ, angoissé, en disant, bah, quand même, vu le sujet, est-ce que les auteurs vont répondre présent? Bah, ils l'ont fait plus que 100 fois. D'ailleurs, on peut les en remercier.
Bah oui, parce qu'en plus, il y a un très bon équilibre, je trouve, entre des nouvelles un peu plus sérieuses, un peu plus graves, et puis des nouvelles qui sont un peu plus délirantes, un peu plus amusantes. C'était aussi une volonté de votre part?
Déjà, on était tributaires des textes qu'on a eus, donc on a eu de la chance, encore une fois, que les auteurs fassent vraiment un spectre assez large. Et d'un autre côté, bah oui, c'est aussi un petit peu, j'avoue que là, c'est moi qui m'y suis collé, donc c'est à moi qu'on peut jeter des tomates. Essayer d'agencer une anthologie, c'est toujours difficile à expliquer. J'ai attaqué un peu en douceur avec le texte de Lucie Chenu, qui est très très beau, mais qui est en même temps relativement ce qu'on peut attendre. Et en même temps, essayer d'intercaler des textes plus classiques avec, en effet, ceux qui délirent sec. Je veux dire, quand on lit dans un tel mouchecorne, on sait à quoi on va s'attendre de toute façon. Et là, on n'est pas déçus. C'est aussi un petit équilibre, mais bon, comme j'apprends qu'il y en a qui lit, ils piochent un petit peu au hasard, donc je me demande pourquoi, du coup, ils se décarcassent.
Et pourtant, justement, oui, c'est intéressant de voir comment on peut, là, passer vraiment de choses poétiques, sérieuses, et puis d'un seul coup, on arrive avec des sorciers qui chassent des obèses devant les fast-foods, où on se dit, mais
qu'est-ce qu'il y a? L'auteur se dénonce. Celle-ci est particulièrement jouissive, oui.
Moi, je crois qu'on peut. C'est encore une occasion de saluer les auteurs, parce que bah, c'est eux qu'il faut remercier, c'est eux qui ont inventé toutes ces choses un peu extraordinaires, qui ont inventé cette magie des fast-foods, ou cette magie qui fait marcher des vaisseaux spatiaux, ou toutes ces choses, ces histoires de couleurs qui disparaissent du jour au lendemain, des choses auxquelles on ne pouvait absolument pas s'attendre. Voilà, c'est le talent d'une brochette d'auteurs qui sont des auteurs malpertuis, puisqu'ils avaient tous au moins un texte déjà publié chez Malpertuis. Donc on savait un peu à quoi s'attendre, non pas en termes de détails de contenu, mais en termes de qualité.
En même temps, c'est un petit peu notre démarche, parce que, puisqu'on n'est pas vraiment axé sur un seul style de fantastique, aussi bien des romans, des textes un petit peu 19e, des textes contemporains. Si un jour j'ai un bon roman de thriller d'horreur, je le prendrai forcément. Et justement, c'est cette diversité qu'on aime bien, qui peut passer du texte très pulp, très roman populaire, fièrement assumé, à des textes en effet poétiques. Je dirais que c'est même... Là, c'est tout simplement la diversité du fantastique. Elle est bien là, et ben, on ne peut que s'en ravir. C'est un peu pour ça qu'on a créé
le Malpertuis. Il y a même presque un manga, à un moment, avec
presque, oui. Quel auteur se dénonce?
Il est là, Romain.
Oui,
Romain,
il est là.
Bah, tu vas nous dire un peu comment tu l'as fait?
Oui. Éviter le gag.
Oui, en fait, plus que manga, c'est plutôt du cinéma de Hong Kong que je me suis inspiré. C'est vrai que je cherchais une idée de nouvelle fantastique sur le thème des sorciers et des magiciens, ancrée un peu dans le fantastique contemporain, puisque je sais que c'est un petit peu ce que Malpertuis cherchait. Et donc je suis plutôt allé chercher du côté de l'Asie. Donc effectivement, le héros, c'est une sorte de détective de l'occulte à Hong Kong de nos jours, qui enquête sur des faits surnaturels puisant dans les légendes chinoises.
Ça oui, parce que c'est à la fois contemporain, mais c'est très ancré dans une tradition.
Oui, c'est vraiment le but, c'est de se faire se rencontrer les traditions magiques et ésotériques chinoises, le taoïsme, le bouddhisme, etc. Et puis, bah, le cinéma de John Woo, avec du kung-fu, des fusillades, et ce genre de choses.
Donc si je vous suis bien, il faut, quand on fait cuire du riz, il vaut mieux mettre l'eau de cuisson de côté parce que ça peut servir, c'est
ça? Ça guérit des morsures de vampires chinois. Très très utile. Ouais, c'est...
Oui, parce qu'on a cette petite poulet, un petit peu de sel, de poivre.
Et là encore, aucune, vraiment, il n'y a eu aucune contrainte particulière, on vous a laissé libre, justement.
Oui, je pensais même que ma nouvelle serait refusée parce qu'elle est relativement longue. Elle fait 50 000 signes à peu près. Je m'étais dit que c'était vraiment la limite haute et qu'ils allaient sans doute la mettre de côté pour
privilégier. C'est pas la plus longue.
C'est peut-être pas la plus longue, oui, ça je ne sais pas, mais je me disais déjà qu'elle était bien longue. Mais bon, visiblement, ils ont assez aimé pour la garder.
Ils ont eu raison parce que c'est très intéressant.
Merci.
Julien Albrock, justement, on vous a dénoncé en premier. Donc c'est vous qui faites attaquer les obèses devant les
fast-foods. Oui, alors. Ouais, pas honte. Non, alors l'idée vient. En fait, l'idée vient d'un ami à moi qui avait commencé à développer cette espèce d'école de magie pour le jeu de rôle et qui avait balancé ses idées sur un forum il y a ça 8-10 ans. Et quand Christophe et Thomas sont venus me suggérer d'éventuellement faire un texte, je me suis tout de suite dit, cette petite idée-là, il faut en faire quelque chose, il y a moyen. Et j'ai vraiment essayé de travailler ça dans l'optique d'une magie post-moderne qui s'affranchirait de toutes ces invocations en latin, les pentacles, les bougies, les grimoires poussiéreux, etc., et qui naîtrait du quotidien des gens, et surtout, alors que cette magie se crée, comment réagiraient les tenants de l'ancienne école un peu réac, quoi. Et voilà, donc...
La querelle des anciens et des modernes.
Voilà, c'est ça. Avec des personnages modernes, bon, qui sont un peu costauds, mais que j'ai essayé de rendre le plus attachant, le plus humain possible, et qui ne savent pas du tout ce qui leur arrive. Ils aiment juste déguster des bons plats. Et là-dedans, j'ai mis de moi aussi, parce que je suis un gros fan de fast-food, j'avoue.
Oui, parce qu'il y a de la recherche. Hein.
Ah oui, sur les menus et tout ça.
Il y a pas, on peut la lire à la télé, il n'y a pas de problème avec le CSA, je crois qu'ils sont à peu près tous cités.
Hein. Oui, voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Et moi, j'avais eu un petit peu peur, par contre, quand Christophe, effectivement, avait dit qu'il ne faut pas que ce soit trop gore. Et moi, j'avais une scène un peu tendue avec des frites très, très aiguisées. Et c'est passé, donc j'en suis heureux.
Oui, et on a donné aussi un moment qui...
Oui.
C'est une nouvelle qui est à la frite.
Est-ce qu'on sait dès le départ, quand on a un sujet comme ça, que forcément, il va falloir aller au bout d'un des liens?
Alors, en fait, moi, je me suis dit, je veux traiter cette idée-là. C'est vraiment tout de suite le premier truc auquel j'ai pensé, sur lequel je me suis focalisé. J'envisageais rien d'autre. Donc, j'ai écrit le texte, je l'ai envoyé assez tôt, je pense, dans la série. Et après, plus ça allait, plus je me disais, non, mais en fait, ça va pas le faire, quoi. C'est tellement n'importe quoi que plus je me disais, j'ai de moins en moins de chance. Voilà. Et en fait, j'ai eu une excellente surprise en me voyant sélectionné.
Moi, je ne suis pas éditeur, je suis collecteur, et moi, je me demandais vraiment où vous alliez jusqu'au bout. Quand j'ai commencé à comprendre un peu quelle était la démarche, je me suis dit, mais il est vraiment, d'abord, il est complètement barré, mais ensuite, c'est vraiment, c'est très drôle parce qu'il faut le dire, tout est dans la chute de la nouvelle aussi.
Oui, bah, j'ai essayé voilà, de. J'ai écrit quelques nouvelles maintenant, et je ne suis pas toujours adepte de cette chute, enfin, disons que j'y arrive pas forcément. Et là, je trouvais que c'était le côté un peu traditionnel, finalement, de la nouvelle, avec cette espèce de... Pas vraiment de rebondissement, mais finalement, bon, on s'en fout, quoi.
Qui avons-nous encore autour de la table? Alors, on a Katie, peut-être. Parce que je me suis fâchée avec vous tout à l'heure, alors je vais essayer de me rattraper.
Oh, je ne suis pas du tout fâchée. En fait, ce qui est bien avec cette anthologie, c'est que je suis dans la même anthologie que Claude Marnier, ici présent, qui a fait un texte formidable.
Ne parlez jamais à plusieurs auteurs en même temps. C'est un conseil. Prenez-les vraiment en tête à tête. Kitty, vous nous proposez-vous une variation sur le petit chaperon rouge?
Oui, alors le petit chaperon rouge, parce que c'est une histoire qui fait partie de celle qui me hante. Donc il y a le petit chaperon rouge, il y a le petit pousset que j'ai un peu trituré dans tous les sens déjà et je continuerai à le faire. D'autres contes plus modernes comme le petit Grégory que j'ai déjà torturé aussi à plusieurs reprises. Ce sont des choses qui font partie de... Comment ?
Chez
Malpertuis, oui, Malpertuis 2. Et, alors, à la différence de plein de mes petits camarades, quand j'ai été contactée pour cette anthologie, mon texte était déjà écrit. Donc ça a été très facile de faire piège jointe. Donc on va chercher dans le disque dur et on fait OK et c'est bon. Donc ça a été assez facile de répondre.
Ce qui est terrible dans votre nouvelle, c'est que c'est le réel finalement qui est pire que la magie.
tout cas qui joue le côté néfaste.
C'est ma vision du monde. Voilà, les contes, les films d'horreur et ce genre de choses, ça m'a toujours semblé plus drôle que la réalité, mais parce que j'ai commencé ma vie dans un environnement pas forcément intéressant, et je crois que j'ai gardé ça. J'aime vivre, j'aime rire, j'aime manger, pas trop les fast food, mais voilà, mais le riz j'aime bien aussi. J'ai gardé ça, ce côté de me dire, mais on côtoie sans arrêt des choses qui sont inexplicables, mystérieuses, et je crois que je passe mon temps à ça, à chercher le côté un peu à répondre à des questions.
Ce qui est le plus inexplicable dans votre nouvelle, c'est le lien maternel finalement. Question piège.
Alors, je vous invite à lire mon texte autobiographique qui s'appelle Noir sur Blanc, où je raconte effectivement, c'est ma vie, il y a cette espèce de mystère, et je pense que je tournerai autour peut-être jusqu'à ma mort, de qu'est-ce que c'est les liens entre les gens. Enfin, même dans mon recueil de nouvelles, Connexion interrompue, c'est ça aussi, c'est la question du lien. Qu'est-ce que c'est ce lien entre les gens? J'ai entendu dire qu'il existait des liens magiques, des liens du sang, ce genre de choses. Ça, c'est pas du tout ce que j'ai vu, c'est pas du tout ce que j'ai vécu, et pour moi c'est un mystère éternel. Voilà.
Eh ben, belle ouverture pour découvrir, puisqu'on a parlé de Claude Mamier.
Oui, je passe mon micro à Claude Mamier.
Alors, racontez-moi un petit peu votre nouvelle, parce qu'elle est assez particulière.
Eh bien, en fait, contrairement à Getty, elle n'était pas directement écrite avant, mais presque, puisque l'idée centrale préexistait en tant que scénario, le très court métrage que j'avais écrit il y a quelques années et qui finalement n'avait jamais vu le jour. Donc, cette idée est restée présente au fond d'un tiroir. Et quand j'ai reçu l'appel de Matt Pertuis Magie, en fait, tout d'un coup, j'ai compris qui étaient les deux personnages centraux de l'histoire, qui au début, dans le scénario, étaient d'obscurs inconnus qui jouent aux cartes sur une table de bistrot avec des effets assez spéciaux. Et donc, dans le scénario, je ne savais pas. Pas qui c'est, et grâce à Malpertuis, j'ai compris qui c'était maintenant.
Donc il joue à la bataille.
Oui,
bêtement. Mais
bêtement.
À chaque pli, il se passe quelque chose d'assez particulier.
Après, effectivement, ce sont des personnages qui ont des pouvoirs très spéciaux et qui ont un certain ressenti, on va dire, envers la race humaine et qui essaient de lui poser quelques problèmes.
De lui nuire, on peut le dire comme ça.
Oui, je crois qu'on peut le dire comme ça, le résumer comme ça. Et donc, à chaque pli, c'est celui qui gagne aussi le droit de nuire.
Voilà, avec des nuisances particulières, puisque finalement, elles ne se contentent pas de viser un individu, elles ont des retombées.
L'idée, c'est que comme ces gens ont effectivement des pouvoir, mais n'en ont plus tant que ça, finalement, il faut réussir à viser la bonne personne, et en nuisant à la bonne personne, on nuit au plus de monde possible. C'est assez stratégique, en fait.
Donc voilà, cette partie de bataille très particulière à découvrir, qui est la deuxième nouvelle de cette anthologie. Puisqu'on est de ce côté-là, on va continuer. Qui avons-nous encore par ici? Christian, alors attendez, vous savez quel votre nouvelle, voilà, c'est le démon encombrant. Qui est une nouvelle très courte.
C'est une nouvelle très courte, mais c'est vraiment fait pour l'anthologie. En fait, je savais que les autres allaient écrire des textes plutôt sérieux, plutôt. Et je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui soit à la fois sérieux et à la fois avec une chute un peu particulière. Et voilà, c'est venu assez rapidement. J'ai fait beaucoup au feeling. Si l'inspiration vient, ça va assez vite.
D'ailleurs, la brièveté de la nouvelle s'explique quand on la lit, parce que finalement, il n'y a pas tellement de développement à voir, il suffit.
C'est une situation, oui.
Oui, voilà, c'est ça, c'est un vrai comédie de situation.
Voilà, c'est vraiment ça.
Pour juste planter un peu le décor, on est avec quelqu'un qui invoque des démons.
Voilà, c'est un sorcier qui veut être simplement le maître du monde, comme tout le monde, enfin, tout tous les sorciers, on va dire. Et il n'a pas hésité à tuer son maître, etc., etc. Donc il prépare tout pour faire venir une méchante créature pour prendre ses pouvoirs, seulement.
Ça va pas se passer comme il avait prévu.
Je pense pas à tout.
C'est très cartoonesque, j'ai trouvé.
C'est un peu ça, oui. C'est un peu de ça, oui.
Oui, perso, ça m'a pas mal rappelé tout ce qu'on trouvait dans les vieux Wartel, les choses comme ça, les nouvelles à chute, comme le faisait bien Robert Bloch ou des gens comme ça. Puis bon, comme vous dites, pas trop de développement, mais souvent une nouvelle, c'est ça, quoi. Ça met sur une idée. Il suffit d'avoir une bonne idée et de bien la traiter. Ni trop long, ni trop court, ni. Mais c'est vrai que c'est justement c'est ça qui est reposant par rapport au roman. Enfin, en tout cas, c'est la façon dont je le vois et quelques autres aussi en discutant avec des collègues.
Oui, dans la construction, c'est forcément totalement différent du fait de la brièveté, en tout cas.
Bah oui. C'est même le challenge parce qu'on peut mettre des choses à lire en travers les lignes qui peuvent juste passer, mais qui peuvent être de substantifique moelle, comme disait Rabelais.
Je dirais même juste en disant que c'est plus dur de faire une nouvelle que de faire un roman. Parce que la nouvelle, ça respecte justement un rythme bien particulier, comme on dit, la priorité, le fait qu'on puisse plonger tout de suite dans l'histoire, que la chute soit compréhensible. Alors qu'en roman, dans le temps, on peut passer des pages et des pages à raconter des histoires, des péripéties. Alors que
la nouvelle, il y a la digression.
Voilà, la nouvelle est vraiment ciblée. C'est
on va finir de ce côté-là.
Pardon. Voilà, comme ça.
Vous pouvez vous présenter.
Ouais, donc, Jacques Lacalbar, l'auteur de la nouvelle s'appelle Deuil dans cette anthologie-là. Donc, c'est une nouvelle qui se déroule dans l'univers de Retour à Salem, un roman qui a été publié chez Asgard Media. Il y a deux tomes, ils ont sorti le premier tome. Mais en fait, l'écriture du texte est faite sur une succession de refus d'éditeurs qui m'ont dit: ah non, pas ce texte-là, il est bien, mais. Ou m'en font un autre, ou pas celui-là, parce que c'était le texte qui ne rentrait pas assez dans le cadre de l'anthologie. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je lui ai raconté l'histoire d'un sorcier de Salem, il ne pourra pas me dire que c'est hors contexte.
Et c'est un sorcier amoureux.
C'est un sorcier amoureux. Avec toutes les contradictions que ça peut avoir, sachant que c'est un sataniste, que c'est vraiment une saloperie de première.
Mais il est touchant.
Par certains côtés, ouais, je pense. J'ai voulu le faire touchant.
C'est plus la manière finalement dont il essaye de résoudre son problème qui est de retrouver son épouse défunte, on peut le dire, c'est le point de débat, qui finalement montre ses mauvais côtés, ses côtés sombres.
C'est ça en fait. C'est une idée qui me travaille énormément dans beaucoup de mes textes, de la confrontation à la mort et comment on arrive à surpasser la mort, qui est un thème vraiment ancré dans la littérature fantastique et dans la littérature mondiale, parce qu'avec Gilgamesh. C'est ça en fait, c'est la base de ça. Et c'est jusqu'à quel point on est prêt à faire des saloperies pour obtenir ce qu'on veut.
Mais il y a quand même de la conscience dans la nouvelle, sauf qu'elle ne vient pas de lui, la conscience.
La conscience ?
Oui.
Une certaine forme de conscience. Il se rend compte quand même que son comportement est profondément malsain et contre nature, mais.
C'est peut-être elle qui a la conscience.
Jusqu'à un certain point, d'être ça aussi. Et en fait, le personnage, c'est aussi tout ce qu'il projette dans le personnage. L'idée de faire juste une histoire de zombie, bon, ça ne m'intéressait pas, en fait. C'était vraiment toucher à la dimension du fantasme, du rêve, soulever un peu le voile de l'inconscient, de tout ce qui est...
C'est un film de Frankenstein aussi. Hein.
Un peu, mais c'est plus, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui soit tourné vers l'onirisme, en fait, jusqu'à un certain point. En ayant
un
côté
assez corps. On va continuer notre. Voilà. Passage signal qui est aussi le cortège des fous de Jacques qui est paru, devinez où, chez Malpertuis.
Bernard Benetti. Alors oui. Vous êtes dans l'actualité parce que vous avez réussi à vous faire une nouvelle sur la neige.
Sur la neige, mais enfin, je n'ai pas neigé pas à l'époque. Il neigeait pas à l'époque où j'ai fait. Mais la mienne est noire, hein, donc il y a un petit problème quand même. En fait, c'est une variation sur le thème, le Père Noël est une orgue. C'est bien connu. Et je conseille à tous les gens de murer leur cheminée et de se mettre au radiateur électrique.
C'est l'idée, c'est ça, c'est on est un peu au milieu de nulle part, avec des personnes très riches qui viennent s'installer.
Oui, parce que c'est très tendance ben, de s'installer à la campagne.
De redevenir chatouin.
Mais il ne reste pas longtemps, en fait.
Oui, on s'en rend compte.
Et mais sauf que... la perte.
Sauf que le Parisien, dans son côté image des
pourquoi le Parisien
non, parce qu'en l'occurrence, ce sont des personnages qui sont parisiens, mais il a dans son image des finales que sa maison de campagne ne peut qu'avoir une cheminée, finalement, alors qu'il aurait très bien pu la laisser.
Oui, je pense, oui. Finalement, c'est ça. Nous entendons. pas de son cheminée, c'est pas une maison
de plantage. Sauf que là, il ne fallait pas le faire.
Il fallait pas le faire. Non. Mais ils n'ont pas lu ma nouvelle, c'est pour ça que...
Et cette neige noire, justement, il y a quelque chose de à la fois d'onirique et en même temps, il y a quelque chose de très dur dans votre nouvelle, très violente, même si on voit rien.
C'est la cheminée, quoi. C'est le cheminée qui pense, donc qui suit.
Je m'incline. Avec Julie, conseil, c'est l'oiseau bleu noir, oui. Vous pouvez nous planter un petit peu le décor de cet oiseau bleu noir. Alors, il y a des numéros très classiques, on va dire, de ce qu'on voit aujourd'hui, même parfois à la télévision.
Oui, il y en a un qui est recyclé de Garcia, je sais pas.
Mais, les cartes qui apparaissent dans les pamplemousses.
Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est pas celui-là qui gagne.
Non, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont beaucoup plus intrigants.
Oui, donc il y a l'enclume et un immortel qui se disputent avec Thor Justement, qui arrive à égalité, qui doivent être départagés par un barrage. Et c'est l'enclume qui gagne.
Et là, il y a l'histoire personnelle du meneur de jeu, entre guillemets, hein, qui va intervenir.
En Lankou, quelqu'un qui l'a vu dans sa petite enfance, et qui avait un compte à régler.
Non, effectivement. Là encore, c'est un univers finalement assez concret, presque banal. Finalement, ça pourrait être un dimanche après-midi dans une salle des fêtes, un peu n'importe où.
Absolument. Je laisse au lecteur décider si c'est vraiment fantastique ou si en fait il ne se passe rien du tout. C'est aussi tout à fait possible la lecture de la nouvelle.
Bon. Oh, si, quand même, ça se passe.
Oui. On dit quelque chose.
Oui, quand même, un petit peu. Merci beaucoup. Antenne Haute-Corne.
Oscar.
Oui, Oscar, pardon, excusez-moi. On s'est fatigué, moi, c'est un fréquent. Vous nous faites danser.
Oui, alors par contre, je vais devoir composer avec le petit filet de voix très ténu qui me reste pour tout le week-end. Vous m'excuserez par avance. J'espère. Donc en fait, le couteau atomique, c'est parti avant tout d'un découvert du couteau dans le cadre de Trax sur Arte. J'avais été très ému par cette danse.
C'est une danse japonaise.
Danse japonaise, exactement. Alors, plusieurs origines, je vais faire bref, à la fois en raison de ma voix et de votre temps, je ne vais pas abuser. Donc, double influence si je puis dire, désastre de Nagasaki, d'Hiroshima, fort traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, donc le désir en fait de rompre les arts traditionnels, et aussi parallèlement donc l'influence des chorégraphies occidentales, alors entre autres la danse de la sorcière, une danseuse allemande dont j'ai perdu le nom, vous m'excuserez, je n'ai plus mes recherches en tête de l'époque, je m'étais un peu documenté, et aussi votre influence de Pina Bausch. Donc en fait cette nouvelle, c'est une sorte de collision, atomique peut-être pas, en tout cas donc entre une contrainte, la sorcellerie, sur laquelle j'ai encore jamais écrit jusqu'à présent, en tout cas pas en tant que telle, et pas stricto sensus, et de mon côté un fort désir d'écrire sur le bouton. Vous savez, c'est un peu comme ces lettres au Scrabble, les W, les Z, on ne sait pas trop où caser, et sur lequel on a beaucoup envie d'écrire, c'était l'occasion parfaite. Donc je me suis inspiré donc de cette danse, et du film tourné français, avec cette image également des feuillages burlesques, du cabaret. Je voulais en fait avoir une nouvelle, je vais plutôt là-dessus, dans laquelle la chorégraphie soit un vecteur de magie. Et j'avoue que, avec le recul, certains me flagelleront peut-être, c'était peut-être un emprunt aux chroniques des crépusculaires de Mathieu Gaborit, avec justement les danseurs qui dansent pendant les sortilèges, mais cela, ça ne m'a apparu qu'après.
Ce qu'il faut dire, c'est que cette danse, elle a lieu dans un contexte très précis. On est dans une fête d'entreprise. Est-ce qu'on peut en dire plus ou est-ce qu'il faut laisser découvrir?
Oh, je pense pas que sur une nouvelle, il y a un grand risque de spoiler non plus.
C'est quand même particulier, on est chez Areva, on peut le dire.
Oui, on peut pas le dire.
C'est pas cité.
C'est bien, on va se mettre à dos, donc la malbouffe, c'est bien ça, plus le biais atomique. Comment ça risquer gros?
Vous avez une chaîne de télévision, vous avez besoin d'annonceurs.
Ne me lancez pas sur ta fête, je pourrais être intéressable.
Non mais, c'est une nouvelle aussi assez politique finalement, parce qu'il y a... Il y a un message anti-nucléaire à l'intérieur.
Vraiment?
Je ne sais pas, c'est une question que je pose à l'auteur.
Comme dirait Richard Virac, elle a su mon plein gré, alors c'est involontaire.
Très bien, mais en tout cas, elle est aussi très intéressante parce que je crois qu'elle offre beaucoup de pistes de réflexion à la fois sur la puissance de la séduction, parce qu'il y a vraiment ce lien-là, et puis également justement sur la manière dont parfois on est un peu naïf et on se laisse embobiner, parce que le personnage principal, il se fait embobiner dans un sens comme dans l'autre à l'arrivée.
Le personnage principal, ils ont pu trouver amusant dans le sens de cette personne effectivement qui est assez superficielle et qui, je pense, est assez en phase avec un élément de notre époque qui pose de graves problèmes en général. La prédominance de la forme sur le fond, ça commence vraiment à légèrement me casse-casser encore. Je vais contrôler mon vocabulaire, donc je le micro entre les mains. Mais et effectivement, je vais en même temps donner un petit côté tendre. Donc ce côté entre guillemets séducteur pris au piège de sa propre séduction et. Du voile, les apparences, c'est pas beaucoup plus en fait. Bon, ce n'est que la rose arrosée, hein, pour chercher plus loin. Mais les recettes parfois sont très efficaces. Il ne faut pas les renier.
Merci beaucoup. Bénédicte Coudière, on va rester dans la danse, l'enchaînement est tout trouvé, même si ce n'est pas tout à fait la même.
Non, c'est pas la même.
Avec une nouvelle très courte, très jolie, très poétique. Ça va être difficile d'en parler.
Oui, alors pour faire simple, en fait, le but c'était en fait de donner une sorte d'instantané, d'instant magique sous toutes les formes possibles en fait du terme magique, à la fois par ce qui se passe ou par ce qui peut être vu par le spectateur d'une danse, d'une chorégraphie, dont certains mouvements peuvent être soit assez impressionnants, soit considérés comme une forme aussi d'élégance, magique, élégance.
C'est l'art finalement qui est la magie dans cette nouvelle.
D'une certaine façon.
En tout cas, l'art qu'elle arrive à exprimer et à faire ressentir aux autres. Avec une très jolie chute, très poétique. On va pas révéler,
voilà.
Parce que là, c'est là,
faut pas
dire la fin. Mais c'est. Il y a un côté. Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, tiens, ça me rappelle Black Swan, un petit peu dans l'ambiance.
Oui! Alors, c'est pas forcément voulu, dans le sens où j'ai vu le film bien après, enfin, j'ai vu le film après avoir écrit la nouvelle, j'en suis rendu compte donc après, mais c'était pas forcément voulu. Non, ça m'est venu d'une image en fait, je suis tombée sur une image qui résume, en fait, le problème c'est que ça résume la nouvelle, donc je ne pourrais pas dire laquelle. Donc, je suis tombée sur une image, et là, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec et qui pourrait être très intéressant. Très court aussi du fait de ce qui se passe.
Vous ne vous êtes pas dit que ça allait bloquer du côté de l'éditeur? Parce que
si.
C'est la nouvelle peut-être où il y a le moins d'intervention claire, on va dire, d'une forme de magie telle qu'on peut l'entendre.
Je me suis dit que ce serait peut-être un peu court dans un premier temps, parce qu'elle est vraiment, vraiment courte. Après, je me suis dit que de toute façon, ça passe ou ça casse, hein, donc on verra bien. Et à l'origine, j'en avais déjà écrit deux nouvelles parce que j'étais pas sûre ni de la première ni de la deuxième, cela dit, en disant que bah, au pire, voilà, pas une ou l'autre, bah, tant pis, hein, il faut bien tenter de toute façon.
Ah, justement, j'ai posé la question aux éditeurs. Cette nouvelle, elle vous a posé problème? Vous n'avez pas du tout?
Absolument pas, moi je l'adore de toute façon. C'est une de mes préférées.
Oui, ben moi je vais contredire Bénédicte. Autant on peut avoir des problèmes pour des raisons très concrètes avec un texte trop long. D'ailleurs, on a eu quelques décisions déchirantes à prendre à ce propos. Autant un texte trop court ne pose jamais de problème sérieux parce qu'on arrive toujours à le trouver une place. Maintenant, en ce qui concerne le thème, c'est vrai qu'il n'y a pas l'intervention d'un sorcier en chapeau pointu. Mais voilà, la magie, comme elle disait très bien, finalement c'est les auteurs qui en parlent le mieux, hein. La magie, elle intervient, elle est dans l'air, elle est en action, on la sent, et on n'a pas eu besoin de se poser davantage de questions, on était effectivement dans le thème.
Au contraire, je trouve ça beaucoup plus intéressant de traiter d'une sorte de magie diffuse, de magie du quotidien, de magie qui est toujours là à portée de la main. Ça me semble beaucoup plus crédible que simplement la limiter à de la poudre de perlimpinpin ou quelque chose. Ça lui donne une dimension poétique, tandis que autrement, bon, si c'est juste de la mécanique à mélanger des herbes et puis à prendre des sorts, je trouve que ça, au contraire, ça la trivialise. Donc je trouve qu'un texte comme celui de Julie est beaucoup plus magique, sous tous les sens du terme, que peut-être des baguettes de sorciers.
On va continuer notre petit tour de table.
Olivier Caruso.
Olivier, c'est Tournesol, assez particulière elle aussi, hein, dans une ambiance très très étrange là pour le coup. Est-ce que vous pouvez nous raconter le cadre de cette...
Alors rapidement, ça se passe dans un lotissement comme on en connaît tous, un lotissement en rond, donc en forme de tournesol. Et il y a 12 amis qui vivent dans ce lotissement.
C'est les maisons qui font les pétales en fait.
Voilà, exactement. Et ces 12 amis ont tous un pouvoir, un super pouvoir, sauf que c'est un super pouvoir tout pourrable. Ils sont nés avec, alors il y en a qui parlent aux asticots.
Il y en a qui est super beau et qui salue tout le monde.
Ouais, bon, ça arrive à tout le monde, hein, presque.
Ah bon?
Et voilà, et on leur a promis qu'un jour leur pouvoir deviendrait magnifique, grandiose, etc. Et ça vient pas, donc ils s'installent dans cette espèce de routine entre eux, et un jour ça vient. Mais ils se rendent compte que peut-être y a un sacrifice à faire pour que ces pouvoirs viennent, ces pouvoirs repartent, et pour qu'ils reviennent, il va y avoir peut-être un sacrifice à faire.
Il y a une variation sur le vilain petit canard aussi.
Oui, il y a un des personnages qui lui a vraiment vraiment envie que ça revienne, parce que pour le coup lui est très très moche, et son seul espoir dans la vie c'est que ses pouvoirs reviennent. Et bien sûr, il a des amis, il a des gens qui s'attachent à lui. Et les gens se demandent, bon, à quel prix est-ce qu'il faut payer ce rêve, qu'est-ce qui va se passer si on le réalise, qu'est-ce qui va se passer si ça ne se réalise pas.
Et il y en a un qui est normal.
Il y en a un qui n'a pas de pouvoir. C'est un autre vilain petit canard à sa façon.
Et c'est autour de lui finalement, c'est lui le narrateur, hein,
de la nouvelle. Voilà. C'est lui le narrateur, c'est lui son seul pouvoir à la limite, c'est que il est amoureux de sa femme, il est amoureux de peut-être plusieurs personnes, et c'est son super pouvoir à lui.
Très bien. Ça se termine moins bien que ne laisse imaginer cette dernière phrase quand même. On va dire, elle est quand même assez sombre la nouvelle.
La nouvelle est assez sombre, effectivement.
Franck Féric, on va revenir un petit peu avec ce qu'on disait avec Bénédicte tout à l'heure, parce que là aussi c'est un petit peu l'art qui est au cœur de la nouvelle. Là c'est l'art de l'écrivain en l'occurrence. Hein.
L'art de l'écrivain, puisque le personnage de cette nouvelle qui s'intitule donc Simulacre, c'est un écrivain nécromancien, vieillissant. Qui a épuisé son art, qui du coup cherche là où il peut une manière de le ressourcer, et il va chercher ça habituellement dans un bistrot. Il se retrouve face à face avec lui-même dans un bistrot. Donc c'est
avec un lui-même un peu particulier.
Avec un lui-même un peu particulier dans le bistrot. Son miroir, son petit clin d'œil aussi, portrait de Dorian Gray. Et donc il y a un dialogue entre lui-même et son reflet. Ce qu'il veut y voir et ne pas y voir.
C'est une mise en abîme.
On peut y voir ce qu'on veut.
Mais pas encore,
chacun sa propre prime. Ouais, je sais pas, c'est mieux.
Mais là encore, oui, il y a cette manière. Moi, ça m'a fait penser un peu à Stephen King, à la part de l'autre. Même si là, c'est pas un auteur qui vient, mais c'est les personnages qui viennent hanter leur auteur. Comment vous définiriez justement ce qu'il y a dans le miroir? C'est sa conscience, c'est son inspiration, ou c'est vraiment lui-même?
C'est tout. Enfin, pour ma part, c'est tout ce qu'il a mis lui-même de côté, ce qu'il a sacrifié de lui-même pour s'adonner à ce monde.
Donc beaucoup.
Ça, son identité.
Très bien. Merci beaucoup. Et puis bon, on va finir le tour de table avec Silas pour une nouvelle qui s'appelle Rêve de magie.
Oui.
Là, on est dans l'enfance.
Oui, c'est un ado en tout cas, oui. C'est vrai qu'il y a le côté enfant, puisqu'il y a le rêve, quoi.
Oui.
Le rêve
tout tourne autour d'une boîte de magie. Hein.
Ouais, une boîte de magie. Donc c'est un ado, 14-15 ans. Ses parents ramènent une boîte de magie. Et c'est exactement ce qu'il voulait, l'ado, puisque lui, il fait de la magie déjà, il essaye. Il veut devenir magicien, quoi. Son rêve de magie, ça s'en rêve à lui.
Il dit même, les études, ça sert à rien, moi, je veux devenir magicien.
Tout à fait, voilà.
Il a exemple.
Des posters de magicien dans sa chambre, ouais, il veut faire ça. Et la boîte, c'est génial. Elle lui donne exactement ce dont il a besoin. Ce qui est bien, c'est que le lendemain, elle lui donne encore autre chose. Et c'est une boîte qui petit peu spécial.
Elle c'est donne un peu trop beau pour que ça dure comme
voilà,
ça.
Voilà, tout à fait. Elle donne et elle peut apprendre aussi.
Ce qui est intéressant, outre l'histoire elle-même, mais dans la nouvelle, c'est aussi le mode narratif qui est assez particulier et original.
Bah, c'est le point de vue, c'est la boîte.
Moi, c'est elle qui parle en fait.
Ouais, tout à fait, ouais. Enfin, oui. C'est elle qui parle. Moi, j'aime bien dans mes nouvelles faire des expérimentations. Je veux dire, j'écris aussi du roman, bon, je sais pas si c'était classique, mais dans les nouvelles, c'est vraiment l'occasion de se lâcher, quoi, d'essayer des trucs. Hein. Bon, pourquoi pas prendre le point de vue de la boîte. Et puis, ma foi, ça a pas trop mal marché. Bon.
Là encore, c'est plutôt une nouvelle sombre, en tout cas qui ne se termine pas forcément très bien. C'est aussi intéressant peut-être de montrer un côté un peu plus noir, un peu plus négatif de la magie, où parfois peut-être on a tendance à vouloir un peu l'enjoliver.
À la base, moi je suis parti sur la magie dans le sens prestidigitation. Le thème c'était magie et sorcellerie, ça m'inspirait pas plus que ça parce que c'était très très large. Après, quand on voit l'éventail des nouvelles produites, j'aurais pu écrire vraiment n'importe quoi là-dessus. Donc je suis parti sur la magie à la Garcimore. Et après, je n'ai pas voulu montrer le côté sombre de la magie. C'est venu comme ça. Hein. Les nouvelles que j'écris pour ma partie, en général, elles sont pas mal sombres. Donc,
Avec là encore les contraintes qu'on évoquait en début, qui ne font pas non plus tomber dans quelque chose qui se met trop noir.
Alors c'est pas gore.
Oui, tout. Non.
Du tout. Donc, je me suis dit, ils pourront pas me dire ça, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu peur. Le personnage, c'est un ado de 15 ans et il se fait quand même bien maltraité.
Oui, il lui arrive des trucs qui sont quand même pas sympas.
Du tout. Je me suis dit, bon, ben, j'espère que ça va passer.
Bah,
c'est passé. Christophe, qui dit oui.
Oui, il n'y a rien qui vous a dérangé.
Non. Il faut essayer de
le faire. Ils sont plus à ça. Après, ils sortent tellement d'horreur.
Mais ça aurait pu être une autre partie du corps.
J'ai adoré,
non ? Une en particulier qui est
un côté symbolique quand même.
Oui, certes.
Oh my God.
Bon, ça paraissait intéressant aussi avec la puberté.
Très bien. Ben voilà. Si vous
c'est aussi une grande métaphore du fantastique.
Bon, on peut dire un petit mot.
On peut dire un petit mot quand même sur les auteurs qui n'ont pas pu venir, soit parce qu'ils avaient des empêchements, soit parce qu'ils avaient des ennuis de santé, ou soit parce qu'ils n'ont pas entendu qu'on les appelait et qu'ils sont pas montés sur scène. Je pense à en particulier, donc je vais dire le plus grand bien, qui arrive l'avocat pour ne pas le nommer. Et donc il faut quand même dire un petit mot sur leur nouvelle. Et bon, ben voilà, je vais dire un mot sur la nouvelle de Karim Berouka qui clôt le recueil. On a décidé de terminer la dernière impression que vous avez en refermant le livre. C'est cette histoire épouvantable de vaisseaux spatiaux qui traverse des espaces interstellaires quasi infinis en étant propulsé à la sorcellerie et au mal, donc grâce à une sombre alliance avec des créatures quasi lovecraftiennes qui hantent l'espace intersidéral. Voilà, il faut dire aussi un mot de la nouvelle de Jean Tirion, qui retourne les apparences et dans laquelle des jeunes et des enfants handicapés, horriblement infirmes, tiennent en fait les rênes de tout un tas de choses. Je ne veux pas en dire trop. On peut dire un mot aussi de la très belle nouvelle de Lucie Chenu qui ouvre le recueil, qui est dans une ambiance très, très classique, très poétique, sur la magie, la magie de l'eau, et en particulier un message, à mon avis. Connaissant Lucie, je pense que le message sur la pureté et sur le poison de la pureté n'est absolument pas innocent. Un petit mot sur Simon Sanaujas, puisque on a qualifié tout à l'heure son texte de fantasy. Si on remplace ce royaume d'Europe centrale imaginaire par un pays réel à l'époque médiévale, ça marche aussi. Donc pour moi, c'est pas vraiment de la fantasy. Et ce qui compte, c'est cette chose qu'on aime quand on est un amateur de fantastique, qui est le déchirement et le basculement de la réalité.
En plus, à sa façon, c'est un texte expérimental et on est assez content d'en avoir de temps en temps.
Ouais, il a bien insisté sur la manière dont on devait le maquetter, d'ailleurs.
Oui, parce que c'est... Il y a une division, presque une division d'écran.
Il y a des colonnes juxtaposées sur ce qui se passe dans une version de l'histoire et une autre. Ce qui est intégral au déroulement de l'histoire, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un grand sorcier qu'on vient trouver de très loin pour lui demander de modifier la réalité grâce à ses rêves.
Et puis, il y a également la nouvelle de Jean-François Seignolle sur le tango.
Alors, on m'a dit qu'on
ne fera plus jamais le tango.
On m'a dit que Jean-François Seignolle est actuellement en vacances en Argentine, ce qui ne m'étonne absolument pas quand on a lu sa nouvelle, puisqu'il s'agit de la magie du tango de Carlos Gardel. Là encore, ce n'est pas une magie très innocente, même si elle a à voir avec l'amour, en fait, elle est assez meurtrière.
Soit dit en passant, c'est tango, c'est pas le tchakapoum des grands-mères, mais le véritable tango, Carlos Gardel, qui est absolument magnifique, qui est une sorte de blues déchirant, et qui utilise à la merveille la langue espagnole. Je vous invite à écouter un petit peu de Carlos Gardel pour sortir des clichés.
Un petit mot aussi sur un auteur qu'on aime.
Juste sur Carlos Gardel, on trouve facilement la chanson qui donne le titre à la nouvelle en tapant sur un moteur de recherche.
Un auteur qu'on aime beaucoup, qui n'est pas là non plus, qui est Nico Bali. Nico Bali nous a écrit une espèce de nouvelle steampunk extrêmement bizarre, avec un mélange de fantasy et d'effrayant, dont je pense qu'il a le secret. Voilà, c'est un auteur dont on est très content d'avoir publié des textes chez Malpertuis, et une espèce de quasi-roman qui s'appelle L'œil clos, et dont on attend le plus grand bien, en tout cas pour l'avenir.
Avec un message écolo aussi en plus.
Un message écolo très important. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a un film qui va sortir qui parle aussi des abeilles, puisqu'il y a beaucoup de questions des abeilles. Sauf que là, la défense des abeilles est appuyée sur des arguments extrêmement bizarres. Et elle s'est passée dans l'histoire à différentes reprises d'une manière un peu occulte, d'après le texte.
On parlait de Robert Darvel aussi.
Robert Darvel.
Qui nous offre une ambiance à la Cronenberg.
S'il était monté sur scène, il nous en parlerait sans doute mieux lui-même. Mais Robert Darvel, je lui ai demandé comment il faisait pour trouver des idées aussi tordues. Et il m'a répondu d'un air faussement étonné. Tordu, mais pas du tout. C'est une idée très simple.
Oui.
Donc voilà, il s'agit de quelqu'un qui rend visite à un couple de jumeaux siamois, somnambules et sorciers.
Et télépathes.
Et télépathes. Et qui se fait séquestrer par eux parce voilà. qu'ils ont décidé de l'utiliser comme spectateur.
Ah, on va nous livrer un Darvel pieds et poings liés. Bien causé dans le poste.
Ta nouvelle.
Non.
Si.
J'ai rien compris.
Arbeit.
Donnez-lui un micro. Voilà.
Laquelle
nouvelle? Chamois et sorcellerie.
Ah bah oui, bah c'est le thème initial de la sorcellerie. Pour moi, ça s'arrêtait à Mystique dans Merlin Enchanteur. J'étais pas trop. Et puis un quart d'heure après, j'avais donc livré deux siamois télépathes, sorciers et magiciens, qui se battent l'un contre l'autre pour conserver, pour redevenir un seul, en se coupant en deux ou en devenant un seul avec les deux.
Lequel?
Ça m'a fait un carton. C'est tout.
Ça se termine un peu plus mal que ça quand même.
Hein, ah oui, mais ça, il faut le lire pour savoir.
Oui,
ça termine mal.
Puis, non, mais parce que ça a l'air très simple quand vous la racontez, mais l'action elle-même est beaucoup plus compliquée.
Ah bah, ce n'est que du vécu, de toute façon.
Ah bon? C'est un témoignage.
J'en ai encore deux, donc.
Oui, alors en fait,
alors par contre, des jumeaux télépathes si à moi, je crois que les télés se les arracheraient.
Et là, en fait, ils sont, on n'a pas parlé avec une jolie nouvelle.
Soit dit en passant, je citerai juste un truc, c'est quand même dans l'Anto, il y a Jeanne Thirion, Laurent Fétis et Bernard Nicoletti, qui sont des transfuges du polar. Donc ça fait un petit peu des passerelles entre gens, et c'est quelque chose dont on est assez content.
Alors un mot sur cette nouvelle de Laurent Fétis, justement, qui s'appelle Les filles de la doublure intérieure, qui se passe pas encore dans un bar.
C'est pareil, c'est...
Dans un bar, tout à l'heure, là, on
oui, encore, décidément, ça pourrait s'appeler L'homme des tavernes. Oui, c'est difficile à dire, mais en fait c'est une histoire qui commence tout en douceur et avec un basculement très brutal qui prend par surprise, qui en même temps est d'une logique implacable. Enfin,
faut se méfier des apparences.
C'est difficile de dire un mot sans déflorer la nouvelle, en fait.
Bah, on peut dire que c'est quand même vieil homme qui se fait draguer dans un bar par une ravissante jeune femme. C'est le point de départ,
voilà. Ce qui n'est pas autobiographique du temps en fait, c'est jeune, lui. Si j'avais écrit, peut-être.
On peut dire qu'il n'est pas ce qu'il semble être. On peut dire que cet homme n'est pas ce qu'il semble être.
Et elle non plus.
Et que derrière son apparence, et elle non plus, mais ça on ne le découvre qu'à la fin, derrière son apparence de pilier de bar bien inoffensif, en fait il est tout à fait autre chose et moins inoffensif qu'il en a l'air.
On n'a pas encore parlé de la nouvelle de Laurent Montesi.
Alors Laurent Montesi, qui est effectivement la plus longue, donc on s'est demandé est-ce qu'on va la garder, est-ce qu'on va pas la garder. Finalement on a dit oui. Nouvelle qui est sous-titrée pièce de théâtre en 6 actes. Qui s'appelle Le sorcier de Brassac. Donc c'est l'histoire de trois personnages assez écœurants, il faut bien le dire, qui sont des cadres supérieurs en partance, pour un séminaire dans lequel ils vont parler de profit, de taux de marge, de recettes de marketing, etc. Et puis, qui sont pris par la tempête et qui sont obligés d'aller demander l'hospitalité dans un château qui se trouve là et où ils ont vu de la lumière. Donc, j'ai vu de la lumière, je suis entré, comme on dit. Et ils découvrent, chemin faisant, un singe apparemment apprivoisé, un vieux serviteur bossu, un maître qu'on ne voit qu'à la fin et que tout le monde appelle le maître, et un château très bizarre, tellement bizarre en fait, que le chef des trois businessmen croit que toute sa bande lui a fait une blague pour son anniversaire et lui a monté un spectacle, alors qu'en fait, le lecteur sait bien que non, ce n'est pas manigancé, c'est de l'authentique sorcellerie, et bien entendu, le singe, qui est un mandril absolument effrayant, va avoir un rôle tout à fait déplaisant dans ce qui va arriver à ces trois personnages.
Personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai retrouvé, je sais pas si j'ai pas eu l'occasion de le demander à Laurent, mais une ambiance qui était très proche des films gothiques classiques des années 60. C'est très Mario Bava et des choses comme ça, pour ceux qui s'est dit quelque chose. Enfin, c'est sûr que cette nouvelle, si c'était un film, il serait en noir et blanc, c'est obligé.
Avec juste un peu de rouge colorisé à posteriori.
Oh bah tiens, puisqu'on parle du rouge, on va pouvoir faire l'enchaînement tout trouvé avec la nouvelle d'Emmanuel Cartaner.
Alors là, bon, ça c'est encore une de ces nouvelles très courtes qu'on a toujours peur de trop dévoiler en la racontant. Emmanuel Cartaner, c'est une auteure lyonnaise qui n'est pas très exclusive du genre fantastique, puisqu'elle écrit plutôt des choses un peu mi-policière, mi-littérature générale, et qui nous avait déjà conduit un très joli texte qu'on avait mis dans le muséum, qui s'appelait Voleur. C'était l'histoire d'un homme qui volait des choses dans les tableaux de maître. Donc, il volait, par exemple, les tournesols de Van Gogh pour les mettre sur la table de son séjour. Et tout se passait très bien, il était le seul à s'en rendre compte. Bon, je parle de ça parce qu'en fait, on est dans la même ambiance. Un matin, une jeune fleuriste se réveille et découvre que quelque chose a changé dans son univers. En fait, c'est quelque chose, eh bien, disons-le, c'est la couleur rouge qui a disparu. Et
elle s'appelle Garance, ce qui n'est sûrement
pas innocent.
Ce
qui n'est pas innocent. Alors... Voilà, tout le plaisir de cette histoire vient effectivement de la manière dont la situation est exposée, exploitée, et puis ensuite résolue par une petite chute assez amusante. Donc, on peut dire qu'il ne faut pas en dire trop, je crois.
Et puis il nous reste Léo Henry, je crois, hein, c'est la dernière dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle « Tordre le cou à la pensée magique ».
Alors Léo Henry, c'est quelqu'un dont je pense que Thomas est d'accord avec moi, on a énormément d'estime pour son talent. C'est quelqu'un qui, un peu comme Robert Darvel, mais différemment, est très doué pour avoir des idées tordues. En tout cas, ce que j'appelle des idées tordues sont des choses qui sortent complètement du domaine de pensée ou d'imagination que des gens ordinaires, comme moi par exemple, peuvent avoir. Donc, avec cette nouvelle, on avait beaucoup apprécié une nouvelle qu'il avait fait paraître dans Malpertuis 1, je crois, où il y avait une histoire de vampire qui était assez sympathique, mais qui demandait quelque chose de très spécial à un humain. Ici, il est question d'un homme qui possède un baladeur, MP3, et avec ce baladeur, il a le pouvoir de prédire l'avenir proche. C'est-à-dire qu'en se mettant en mode aléatoire, les chansons qui vont apparaître vont lui donner des indices sur les choses qui vont se passer. Donc évidemment, nous sommes à l'ère d'Internet. Pour y voir clair, pour essayer de comprendre les choses, il essaye par le biais de forums occultes de se mettre en relation avec des gens qui, pensent-ils, vont pouvoir lui expliquer ce qui se passe. Et ce qui va lui permettre, au fil donc, d'un certain nombre de chansons qui sont mentionnées au fil de l'histoire, d'affronter, de rencontrer des personnages, d'affronter des difficultés, de frôler peut-être la mort, et voilà, peut-être une résolution, mais c'est pas certain.
Soit dit en passant, la connexion vient de loin, puisque Léo Henry, quand j'avais fait ma toute première anthologie, comme Malpertuis n'existait pas encore, Rockstar chez Nesty Denon, il m'avait envoyé une nouvelle, et du coup, quand je lui avais accepté d'enthousiasme, il m'avait dit, c'est bien, c'est ma première publication professionnelle. Il avait 24 ans.
Petit con. Bon, en tout cas, c'est une nouvelle qui montre aussi, qui est vraiment ancrée dans notre société d'aujourd'hui, hein, très... très... pleine de technologie, mais également pleine de peur, presque irrationnelle.
En même temps, ça revient à ce qu'on se dit, quoi. Cette technologie dont personne ne sait vraiment comment elle fonctionne et qui est de plus en plus inaccessible. Je veux dire, essayer de configurer quelque chose maintenant, faut être soit ingénieur ou quelque chose comme ça, et c'est un petit peu des merdes ici, en général, vous êtes laissé à vous-même. Ça devient une certaine forme de magie, parce qu'à force on se dit, mais qu'est-ce qui fait marcher tous ces trucs? On ouvre un téléviseur, avant on appuyait sur un bouton, il y a 36 trucs qui se développent tous plus magiques les uns que les autres. Je dirais que tout comme la science-fiction est entrée devenue en bon pan étant obsolète, puisque même il y a 20-30 ans, on n'imaginait pas que dans un petit machin de la taille d'une boîte d'allumettes, on puisse avoir, moi j'ai quasiment toute ma discographie de plusieurs centaines et centaines d'albums, et j'ai tout ça à portée de la main. Personne ne l'avait prévenu, personne n'avait prévu, pardon. Les téléphones portables, Internet, tout ça, c'était du passé. Et en même temps, peut-être cette technologie de plus en plus inaccessible, en même temps, on a l'impression qu'il y a tout une caisse qui la préserve. Quoi. Je veux dire, c'est comme l'informatique, il y a quelque chose de masse, et qu'on essaie encore artificiellement de traiter comme si c'était un truc pour initier, une forme de magie, dont seul un conclave de magiciens qui, eux, ont le savoir, qu'ils gardent jalousement, peuvent se permettre, et qui est inaccessible au commun des mortels comme vous et moi. Est-ce que c'est pas une certaine forme de magie, ou du moins traitée comme telle, qui en effet fait peur parce qu'on n'arrive pas à la comprendre, on n'arrive pas à la toucher, et tout est verrouillé, tout est fait pour qu'ils n'en comprennent, on n'y comprenne rien. La bonne vieille époque, on pouvait, les dimanches après-midi, démonter son moteur de R8, avec un moteur d'aujourd'hui, je vous paye des prunes.
Alors, moi, je voudrais quelque chose d'autre aussi dans cette nouvelle, et je pense que, bon, on découvre en général que pour écrire sur quelque chose, il faut avoir son cœur dedans, donc ça peut être une passion quelconque. Je parlais tout à l'heure de Jean-François Seignolle et de son tango argentin. Là, on est clairement chez quelqu'un qui aime beaucoup la musique, et je pense qu'il y a peu de choses qui sont plus proches de la personnalité et à la limite de l'âme d'une personne que la playlist et le choix de musique qu'il a sur son baladeur, celui qui l'emmène partout, sur son île déserte, qu'il a envie de pouvoir écouter tout le temps. Donc, dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es.
Bah, c'est pas facile.
Le message finalement caché, peut-être pas volontaire et peut-être pas du tout voulu, mais que moi je lis en tout cas dans ce texte, c'est que ce qui est traditionnellement une mission ou une chose qu'on attend de la sorcellerie, qui est de lire l'avenir proche, finalement, il suffit de savoir fouiller dans son propre cerveau, dans son propre univers de référence, et d'y voir un peu clair, même si là c'est un processus aléatoire, électronique qui est chargé de le faire, mais il suffit d'aller faire un petit peu de ménage dans ce qu'on porte en soi, d'essayer d'y voir clair, et puis c'est avec ça qu'on est armé finalement pour évoluer dans ce qui va se passer.
Et sans en dire trop sur la nouvelle, c'est aussi une technologie ultra moderne qui débouche sur une peur archaïque finalement, hein. C'est assez... Il y a une ambiguïté aussi dans la nouvelle.
Les peurs archaïques, c'est ce qui fait marcher toutes les bonnes histoires d'horreur. Hein, et ce n'est pas Lovecraft qui me dira le contraire.
Mais merci beaucoup à tous, en tout cas. Vous avez pu voir qu'il y a vraiment, sur un même sujet, des dizaines, en l'occurrence, de façons de les traiter, de les appréhender, et puis de vous proposer des textes. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à lire cette anthologie et à la découvrir avec, je le redis, un très bon équilibre, je trouve, entre des nouvelles sérieuses, un peu plus sombres, un peu plus poétiques, et puis d'autres qui sont beaucoup plus délirantes et parfois très amusantes, parfois les deux d'ailleurs, hein, ça peut être à la fois des sujets graves traités de manière assez souriante, et je vous encourage peut-être à aller voir du côté du stand Malpertuis pour découvrir plus en détail les 24 nouvelles qui sont à l'intérieur de cette anthologie du Salon Zone Franche 2013. Merci beaucoup.
Vous y êtes les bienvenus, puis vous pouvez aussi aller voir, je pouvais aussi vous montrer mon iPod, comme ça vous saurez tout de moi.
Merci beaucoup.
Merci Stéphane, parce que c'est toute millionnaire, elle est industrielle.